l'éducation chrétienne au service de la société. Et nous avons dans ce modèle de Daniel, qui comporte depuis des années, cette vision d'un jeune homme formé dans la synagogue, parce qu'à l'époque, le peuple d'Israël était donc exilé. Et puis les gens se disaient, mais en Babylonie, on est en train de perdre notre héritage. Il faut absolument que nos jeunes, on puisse transmettre cet héritage. Et les familles faisaient plus ce rôle. Et donc les sages se sont dit, il faut qu'on bâtisse des structures où la transmission puisse se faire. Et donc les synagogues sont nées dans ces temps d'exil. Et le but n'était pas de rester à part, d'avoir une culture seulement à part, mais le but aussi c'était de toucher cette Babylonie. Et c'est ce que Daniel a fait. Et lorsque le roi de Babylone a demandé des jeunes gens sages, intelligents, eh bien il les a trouvés, ces quatre, dans ces juifs qui étaient formés depuis tout petit, pendant 15, 16 ans, peut-être plus, dans la Torah, à part, et ils se retrouvent en plein gouvernement de Babylone. Ça, c'est la vision des écoles. C'est pas une vision, si vous voulez, repliée sur soi, une vision d'un monde qui est méchant, cruel, il faut absolument sortir nos gamins de là-dedans. C'est pas ça, la vision. Et si c'était ça, la vision, c'est pour ça qu'on accompagne les projets d'école. Parce que parfois, il y a des drôles d'idées au début. Mais ce n'est pas grave. Dieu fait avec des drôles d'idées, puis hop, petit à petit, il parle, il rectifie, etc. Donc le but, c'est vraiment cette notion d'être sel et lumière au niveau de ce monde et d'apporter dans le domaine de l'éducation, d'ailleurs comme dans les autres domaines, mais là, c'est le thème de l'éducation, d'apporter ce sel et cette lumière aujourd'hui. Donc voilà, vous voyez, la vision de Daniel est vraiment là. Alors, ce château a une histoire, c'était la Ligue pour la lecture de la Bible. Il avait été acheté par des chrétiens après la Seconde Guerre mondiale pour s'occuper des orphelins de la guerre et leur amener, proposer pour eux des camps de vacances chrétiens où ils puissent rencontrer le Seigneur. Donc des milliers d'enfants ont rencontré le Seigneur dans ce lieu par les camps de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et nous, on a pris ce relais qui était un héritage déjà, il s'occupait de la francophonie, nous aussi, il s'occupait de l'Afrique, de l'édition. Bref, c'est comme s'il y avait une transmission qui s'est faite là. Et puis pour la petite histoire, on avait démarré en 1986 à Sossheim, dans la banlieue de Mulhouse, et le maire nous avait dit depuis déjà 2 ans, voilà, il va falloir quitter les locaux, parce qu'on a besoin de nouveau, nous, de ces locaux d'une école publique. Et alors on cherchait, et puis j'étais dans une église à Lens, et en passant la vision, c'était tout début, et puis il y a un monsieur qui a une vision et il me voit devant un château avec plein d'enfants. Il me dit, voilà, je crois que c'est de Dieu. Alors moi, je cherche un château à Mulhouse, je n'en ai pas trouvé. Et puis bon, on déménage notre école, 110 élèves, nos pupitres, nos machins, tout. Et puis on ne savait pas où être en septembre. Un peu de pression quand même, hein. 110 élèves, on ne savait pas où aller dans 2 mois. Voilà, ce n'est pas évident, quoi. Hein. Et alors, en juillet, une grande photo, un château voilà, à vendre. Et donc, la conviction, etc., d'être dans ce château. Et voilà, donc le Seigneur a une vision de... Moi, je trouve que c'est une belle image par rapport à la formation, parce que la formation que Dieu il nous voit, nous et nos enfants, comme être des gens appelés à régner avec lui. La dimension du royaume, c'est régner. Hein. Ce n'est pas être nous-mêmes influencés, c'est nous-mêmes être instruments d'influence. Et donc, cette royauté, si vous voulez, qui est notre lot à tous hein, et à toutes, Jésus a dit, notre appel en tant qu'être humain, c'est de régner avec lui pour l'éternité. Donc l'éducation, elle est appelée à former des gens qui règnent, hein, et pour l'éternité. Donc c'est pas rien. Ces petites écoles chrétiennes, c'est pas rien la vision. On forme pour l'éternité. Donc on s'est dit, ben, un château, c'est pas mal, c'est dans le thème, quoi, hein, le thème de la royauté et tout ça. Donc on s'est dit, on est dedans, voilà. Donc on est à Guebwiller, cette petite ville au pied des Vosges, des montagnes, et avec ce terrain. Alors maintenant, vous voyez de la belle herbe, mais nos élèves, c'est comme les vaches et les chèvres, hein. Il y a plus d'herbe maintenant. C'est-à-dire que, force de jouer au foot, là, je ne sais pas quand ça a été pris, ça, mais c'est plus comme ça. Maintenant, c'est plutôt boueux, parfois. Et là, vous avez un verger, les classes de primaire au fond, et donc on accueille des enfants de la maternelle à la terminale. J'aimerais vous montrer un petit clip, j'espère que ça va marcher, cette histoire. Est-ce que ça va marcher? Peut-être pas. Oh mince. Je vais vous montrer ce clip peut-être autrement. Et c'est sympa, ça fait un peu de... Je me suis dit, dans une journée comme ça, il faut un peu de visuel. Hein. On ne va pas vous farcir complètement. Alors, voilà, je vais vous montrer ça. Je pensais que ça passerait avec le PowerPoint, a priori, ça passe pas. Alors, communication. Oh là là, les dossiers, les sous-dossiers, voilà, clip, et c'est parti. J'espère que ça va aller. Voilà, ça vous présente un peu, alors c'est un peu sommaire, mais ça donne un peu le cadre de la vision qui nous anime, et j'espère que ça va bien. Ah, maintenant.
Selon la voie qu'il doit suivre.
Non, on n'a pas le...
On n'a que le son. Il ne s'en détournera pas.
Non.
Comment ça se fait qu'on voit que...
Attendez. Je sais pas. Bon,
mais...
Ouais, je sais, non. Tant pis. Tant pis, je sais pas. Ce qui... Peut-être à la pause, on verra avec nos techniciens pour passer ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc... on fête nos 30 ans cette année. Fin juin, là, ça va être... On est démarré en rentrée 86. Et 30 ans d'expérience. On a fait tout... Je disais hier soir à la petite équipe, on a un peu ouvert cette voie de l'école, mais très faiblement. On avait une moyenne d'âge de 25 ans. Un an d'expérience d'éducation, pour moi, d'enseignement dans l'éducation nationale. C'était pas beaucoup. Et puis, on a fait toutes les bêtises pédagogiques. Hein. On a fait toutes les erreurs, je peux vous dire. Mais Dieu a agi, dès le début. Et dans notre faiblesse, eh bien, il s'est glorifié à plusieurs reprises dès le départ. Et je pense que l'attitude qu'on avait, et qui est toujours, j'espère, cette attitude, c'est d'être enseignable. Et on s'est rendu, dès le début de l'école, on s'est dit, Seigneur, on a tout à apprendre de toi. Et les enseignants qui nous ont rejoints, même expérimentés, éducation nationale publique, 20 ans, 25 ans, et je me rappelle toujours une jeune enseignante qui vient rejoindre l'équipe, qui avait déjà 5 ans de bagage et de formation, tout ça. Et elle est venue et tout d'un coup, elle a été saisie devant le Seigneur de ce sentiment d'incapacité par rapport à l'exigence de Dieu, au projet de Dieu. Et malgré son bagage, elle s'est dit, moi, je ne me sens pas prête à... Eh bien, ça, c'est le cœur que Dieu veut. C'est grand, cette vision. Et on peut avoir tout un bagage, une expérience. Dieu a des choses nouvelles, des révélations nouvelles, des voies nouvelles. Et ça, nous sommes dans une... Je sens ce changement de saison entre ces 30 ans et maintenant, et je crois qu'il y a... On en est juste... On a posé les fondations, c'est ce que je crois, depuis 30 ans, et maintenant, il y a des façons de bâtir qui vont être tout à fait nouvelles, et on sent ces prémices. Donc, la terminale, on a démarré le lycée il y a quelques années. On avait une équipe d'enseignants, c'est du collège, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants? Il en faut combien, budgétairement, pour qu'il y ait un lycée? Et puis, on parle, on discute de nos élèves, là, la petite poignée. Puis, il n'y en avait qu'un intéressé. Et on s'est dit, ben, pour un, on va le faire. Donc, c'était voilà, ce genre d'équipe. Pour un, on va offrir donc 35 heures de bénévolat pour ouvrir une section seconde. Pour un. Et donc, ça, c'était la... En fait, il y en a eu trois au début, trois, quatre. Et puis ensuite, on a fait une pause, ouvert la première. Alors, la première, quelle section faire? Alors, on s'est dit, mais il devrait au moins s'arranger pour qu'il n'y ait qu'une section. Les élèves. Ben non, ben, il y a eu trois élèves, trois sections. Bien sûr, c'est pas... Alors, imaginez la complexité, hein, les troncs communs, tout ça. Et là, on a quatre sections terminales. Et on a une petite 20-25 étudiants. Ça fait depuis deux ans. On a 100% de réussite au niveau des brevets, baccalauréat, etc. On ne fait pas d'élitisme. Hein. On prend des enfants qui ont parfois des difficultés. Et ça marche. Et voilà, donc ça, c'est encourageant. Et pourtant, je dirais, on n'est pas... Il y a des tas de choses à apprendre encore. Mais on se rend compte qu'un climat différent, déjà, ça change énormément de choses. Et l'apprentissage est transformé. Donc, une équipe d'une vingtaine de collaborateurs, une trentaine d'enseignants, plus 20 collaborateurs, c'est une vraie entreprise. Et c'est là que je me rends compte, avec mon épouse, qu'au début, c'était des enseignants qui avaient à cœur l'école et des parents. Et plus on avançait, plus on se rend compte que c'est une structure également... de véritables entreprises qui demandent des compétences, des gens qui ne sont pas du tout dans l'enseignement, mais qui ont des compétences au niveau bâtiment, au niveau juridique, au niveau comptabilité. Et vous savez, notre problème actuel, c'est qu'on n'a personne au niveau, par exemple, des relations humaines. Et entre le comité et puis tous ces enseignants, c'est énorme, les 50. Le directeur, il ne peut pas tout seul. Et donc, là, on a des défis au niveau organisationnel qui sont importants au niveau croissance. Et puis, des partenariats internationaux. Et là, c'est absolument étonnant de voir ce que Dieu fait dans le monde. Et actuellement, il y a un recentrage des grandes missions qui avaient pour but premier l'évangélisation et qui sont en train de faire l'évangélisation au travers de l'implantation d'écoles. Donc ça, c'est tout à fait nouveau dans les mouvements internationaux. Et il y a vraiment quelque chose, je pense à l'Afrique francophone, où nous allons régulièrement. La stratégie pour toucher l'Afrique francophone, c'est les écoles. Les écoles chrétiennes d'Afrique, 80% des enfants sont musulmans et les chrétiens sont en train d'être un témoignage. Et je crois que dans notre pays, c'est pareil. Je pense dès qu'il y a une implication dans la société et dans les domaines de la société, dont le domaine de l'éducation fait partie, et qu'on est ouvert aux autres pour servir, il y a une transformation qui est possible. Alors, nous sommes dans un réseau qui s'appelle l'AESPEF, et donc actuellement il y a à peu près une quarantaine d'établissements membres, quelques-uns qui ne sont pas membres mais qu'on accompagne quand même. Le but est d'encourager, de coordonner, et nous travaillons aussi avec le Québec et de plus en plus certains pays d'Afrique francophone. Là, on était avec une équipe, ceux qui connaissent Pierre Kanga, Nicole Sissia, Mathé Rindel, on a fait un carton à Madagascar. C'était une étudiante qui était chez nous il y a 15 ans, à Loulou, 20 ans. Elle revient à Madagascar, elle a fait 3 mois chez nous de formation, elle était jeune enseignante, et puis ça y est, il y a un réseau de 25 écoles, elle dit « Venez, ça serait bien que vous veniez voir ». Et puis, on voit qu'il y a… Ils ont pris la vision, vraiment, ils l'ont prise dans tout ce qu'elle a de profond aussi, pas seulement des chrétiens dans l'école, mais vraiment la révisitation des programmes, tout ça. Ils se sont mis au travail. Là, dans un mois, on va au Congo, Kinshasa. Un étudiant, il y avait 2 étudiants du Congo qui étaient venus il y a quelques années, dont une femme de ménage. Une femme de ménage du Congo Kinshasa, que Dieu appelle, elle était intercesseur, et Dieu lui a mis sur le fardeau de l'école. Donc elle est venue se former chez nous, elle n'est pas enseignante, mais elle a reçu ce fardeau, elle est repartie au Congo Kinshasa, et puis elle a levé des mamans, des papas, tout ça. Il y a 4 établissements maintenant, qui s'appellent les écoles de la source, avec des centaines d'élèves, il y a plus de 1500 je crois en tout. Et donc elle est venue nous revoir en avril dernier. Et écoutez, et ça c'est incroyable. Ils sont venus avec une enveloppe, 4 000 euros dedans. Ils nous ont dit, l'Afrique aimerait bénir la France pour ce qu'elle a reçu. Bam ! J'ai dit, mais c'est pas possible. Donc il y a une mentalité au niveau du royaume de Dieu et des gens. Donc ils ont dit, il faut venir maintenant. Donc voilà. Donc il y a quelque chose qui est en train de. Il y a une nouvelle saison véritablement. Et puis cette nouvelle saison, heureusement, on l'a anticipée. Avec la création toute nouvelle, ça c'est toujours dans les présentations, de cet Institut supérieur protestant Mathurin Cordier, qui a été le fruit d'années de travail. En particulier, une des chevilles ouvrières, c'était, pour ceux qui la connaissent, Martine Durand, c'est qui nous a bien aidés, Claude Gettner et toute une équipe de chez nous. Et ça a été pas sans combat, mais ça y est, depuis 2 ans, ça fonctionne. Centre de formation professionnelle. Les équipes d'école, on les ferait entièrement payer pour venir se former, hébergement, transport, etc. C'est reconnu par la préfecture. Et ça, c'est le début d'une structure. Ça fait des années qu'on avait à cœur une structure post-bac de formation avec une vision biblique. Pas seulement la théologie, vous voyez, mais un autre domaine où il y a une vision biblique du monde. Et ça, c'est né là. Et avec, pour la petite histoire, avec Manuela, il y a 7 ans, nous étions dans le sud-ouest, dans le Gers, pour des émissions avec God TV. Là. Et puis la responsable du camp, un jour, elle vient nous voir, c'était un matin, elle nous dit, écoutez, j'ai vraiment reçu cette nuit dans mon cœur, je pense que c'est une parole de Dieu. Elle dit, dans 5 ans, je vois qu'il y a une université chrétienne qui se lève. Alors nous, on avait ce projet, Dieu nous l'a mis à cœur, mais quand même, 5 ans, ça paraissait bien court. Alors on s'est dit, si c'est de toi, Seigneur, il faut vraiment que tu confirmes. Et on a demandé, la 3e que j'ai demandé, c'est de demander, Seigneur, fais-moi rencontrer 5 chrétiens qui ont un doctorat et qui partagent cette vision. Parce que pour des structures comme ça, université privée, il faut des doctorats. Et nous étions à Gagnères. Et à Gagnères, vous savez, il y a une piscine, il y a tout ça. Dans la piscine, j'en rencontre un. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On a, tac, voilà, je suis chrétien engagé, doctorat en biologie. Et d'un paf, péché. J'en ai 4-5 comme ça, dans la semaine qui a suivi. Et ben, 5 ans après, l'ISP naissait. Et dans cette structure, le premier module, donc, c'est la formation d'enseignants. Et il y a à cœur d'autres niveaux de formation. Et nous travaillons avec des gens du réseau RNC en particulier, pour la, tout ce qui est administrateur, etc., économie. Donc, c'est en train de... Le monde universitaire est en train d'être pris. Alors, c'est tout petit. Hein, c'est comme la petite pierre d'un David. C'est pas grand-chose. Voilà. Et là, ça, c'est la vision. Et donc, nous avons des modules. Il y a moyen de se former. Et tout ce qu'on a acquis depuis 30 ans, eh bien, on le met à disposition. Dans c'est sur 2 ans pour former des maîtres du primaire. Mais des gens qui sont déjà des vieux routards de l'éducation nationale, ils peuvent aussi se réformer et se laisser transformer par certains modules absolument, absolument intéressants. Et j'en profite pour vous dire, c'est ouvert aux parents aussi. Par exemple, pour la Toussaint, les vacances de la Toussaint prochain, qui sont les vacances pour tout le monde en France, vous avez le module Vision biblique du monde, Vision biblique des matières scolaires, par John Hay. Nous avons les vacances de février qui viennent là, le module par Pierre Kranga sur le cœur du père dans l'éducation. Et là, je peux vous assurer qu'on a vu vraiment des enseignants être transformés dans leur identité, parce qu'un enseignant, il transmet ce qu'il est. Donc, s'il n'est pas bien dans ses baskets, vous comprenez, ça va être difficile avec les enfants. Et donc, ce cœur du père, ce cœur de Dieu, eh bien, on le pose comme module pour que les enseignants soient... dans leur identité d'enfant de Dieu, soit transformée. Et donc, on a 2 semaines dessus. Il y a possibilité de venir qu'une semaine. Voilà, ça, c'est l'ISP. Merci de prier aussi pour ça. C'est un tout début. C'est dans les locaux de notre église, Josué. Et petit à petit, il y aura une indépendance. Mais on est en train de couver ce truc-là. Des formateurs viennent de Suisse, des États-Unis, de France. Et l'année passée, ils ont donné bénévolement tout leur temps pour lancer ça. L'état des lieux rapidement avant de poser les fondements de cette vision. Quelques chiffres. Actuellement en France, on est à 30 établissements scolaires protestants évangéliques. Sans compter les établissements adventistes, il y en a beaucoup dans les dom-toms, en particulier la Guadeloupe. Et c'est en train d'être, ils sont en train d'être touchés. C'est un peu des structures qui sont adventistes, mais l'importance de la parole de Dieu avait comme été un petit peu laissée. Et il y a un mouvement aujourd'hui, une volonté de réformation à l'intérieur de ces établissements qui font du bon travail. Suisse francophone, 8 établissements. On touche aussi la Suisse germanophone. Suisse Belgique francophone, 5, dont des centaines des écoles de 300 à 400 élèves, dans des grosses structures. Ils ont cette opportunité d'être payés par le gouvernement. La condition du gouvernement, c'est que ce soit des écoles gratuites. Alors la gratuité, ouverte à tous, vous pouvez être payé totalement. Donc les frais... de salaire des enseignants, fonctionnement, etc., sont pris en charge. Le Québec, alors le Québec, ça a été il y avait une dizaine d'établissements, et en l'an 2000, il y a eu un changement de gouvernement. Et donc les subventions attribuées à ces établissements ont été coupées. Et donc ça a arrêté ce mouvement d'école. Et ils ont redémarré sans avoir les mêmes subventions, très peu. Donc un peu comme chez nous, donc 3 écoles, bon, c'est un peu difficile. L'année passée, 6 ouvertures d'écoles. Cette année, 7 ouvertures. Les Caroubis à Valence, une belle petite équipe qu'on a pu visiter là avec Manuela, très très chouette, avec des jeunes aussi qui s'engagent, des jeunes pasteurs, dont un pasteur aussi d'un mouvement RNC, etc. Mais enfin, c'est inter-église et c'est vraiment une belle vision. Les Chrysalides à Lyon, alors là c'est une vision un peu de l'église Assemblée de Dieu, qui a une vision très forte d'évangélisation. Et Dieu les a conduits à avoir le fardeau d'une école. On s'est mis en contact. Ils ont démarré une belle école, vraiment, hein, en plein cœur de Lyon, en plein cœur de Lyon, près de Perrache, près de Bellecour. Voilà, l'école des Chrysalides, l'église qui a investi dedans. Les Sarments, Villefranche-sur-Saône, 2 pasteurs, ADD, église de frères, ils se sont mis ensemble et ils ont dit ben, on va faire une école. Et c'est une belle petite école dans les locaux d'une église pour l'instant. Donc le collège privé L'Envol, qui était un remixage, hein, vous connaissez peut-être un peu l'histoire, mais c'est quand même un sacré début et qu'on accompagne de tout notre cœur. Et alors au Chambon-sur-Lignon, alors là les amis, vous avez des écoles bizarres. Chez nous déjà dans le Haut-Rhin, il y a une école, vous allez dans le col des montagnes des Vosges, 1400 mètres d'altitude, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien, mais il y a une école chrétienne. Et c'est l'école des Genêts, et il y en a une autre au Chambon-sur-Lignon. Vous prenez une départementale, vous arrivez sur une route forestière, il n'y a plus de goudron, vous êtes dans une forêt. Vous dites, mais où elle est cette école? Et vous arrivez dans un ranch avec des tipis, avec des forts comme Lucky Luke, vous savez, en bois. Là. C'était un camp de vacances, de colonie, quoi. Et l'école, elle est dedans. Et dans ce paysage grandiose, quoi. Mais voilà. Et c'est une jeune femme qui était instite dans le public et qui a eu ce fardeau. Et une ancienne enseignante de chez nous, qui venait de cette région, qui est revenue dans cette région depuis 10, 15 ans, 16 ans, et qui avait le fardeau de prière pour qu'il y ait une école dans cette région. Et quand une grande école protestante, le collège Sévenol, gros établissement protestant, a fermé il y a 2 ans, cette école est née. Et le maire du Chambon-sur-Lignon a dit « Bienvenue dans cette commune, vous reprenez, elle l'a dit, hein, le flambeau de cette école protestante. » Et voilà. Et puis, alors là, une école en groupe scolaire, on n'est pas en contact vraiment avec eux, c'est l'église Charisma. Ils ont démarré une école, première année, 250 élèves cette année-là. C'est la grosse artillerie. Et puis une école à Yverdon. Donc voilà, il y a beaucoup de projets. Là, vous avez les différents projets actuels d'implantation. Thonon-les-Bains, Saint-Étienne, donc Montauban, La Graousse, Nantes, Pau, Nice, Nevers, Dijon, Toulon, Grenoble, Montpellier, Orange, Nîmes, Lille, Tours, Nevers, Bordeaux. Le Havre, Caen, Thonon-les-Bains, Liège, Namur pour la Belgique. Voilà, ça c'est ce qu'on connaît. Il y a beaucoup d'autres projets qui sont peut-être moins mûrs, qu'on ne connaît pas, mais on entend parler de ci, de là. Donc, en 1988, nous prions pour ces visions. On avait 2 ans d'école, et puis le Seigneur nous avait donné vraiment une vision. Et nous avions vu, c'est vraiment une vision que je vous partage, parce que c'est vraiment un fardeau de Dieu. Nous avions vu la carte de France avec des milliers d'étoiles, qui était en train de remplir la France, déborder sur l'Espagne, arriver en Afrique du Nord. Et le Seigneur qui nous disait, vraiment, c'était fort. Hein. Voilà les écoles que je veux pour les années qui viennent. Et puis, cette vision, on l'a toujours gardée dans notre cœur. Il y a 4-5 ans, on était au Mexique avec Manuela. On partage cette vision. Il y a un ancien qui vient nous voir. C'était à Monterrey. Il nous dit, pendant que vous parliez, j'ai une vision. J'ai vu la France, des milliers d'étoiles. Ce sont les écoles, ça déborde sur l'Espagne, ça va en Afrique du Nord, c'est ce que Dieu va faire. La même vision des années plus tard. Donc c'est ce que Dieu est en train de préparer. Et donc il y a vraiment quelque chose qui nous dépasse. Et nous revenons, si vous voulez, à ce qui a été vécu, entre autres, mais pendant la Réforme, où chaque temple était une école, c'est-à-dire 2000 écoles en France, une vingtaine de collèges, universités. Et ça, je pense, c'est un petit aperçu de ces vieux puits que Dieu veut relever. Toutes ces équipes-là qui démarrent, la plupart, c'est étonnant, hein, la plupart, les écoles de Suisse, comme les écoles de France, la plupart, c'est des équipes de louanges qui sont à la tête de ces écoles, des équipes d'adorateurs. Ça devient tellement systématique que je me suis dit, il y a vraiment un truc, Dieu est en train de relever l'adoration dans notre pays. Et l'adoration, c'est pas seulement le chant, l'adoration, c'est reconnaître Dieu dans ses ouvrages et dans sa création. Et ça, c'est l'école. Et donc l'école, on va le voir, c'est le lieu, on forme des adorateurs, c'est-à-dire des jeunes gens qui reconnaissent la marque de Dieu dans toute la création. Et tous les programmes scolaires, c'est des programmes qui touchent la création. On parle de la création. Donc là, il y a un rapport entre les deux. Des partenariats, une association internationale, la CSI, avec qui on travaille main dans la main, Jeunesse en Mission, qui vraiment travaille aussi dans ce domaine, Educavie, nouvelle association tenue par un monsieur qui était le président de la FEF en France, qui n'était pas du tout intéressé par les écoles, vraiment pas. Et puis, il y a 2-3 ans, tac, interpellation du Seigneur, conversion, on peut dire, et voilà, maintenant il est dedans. Et la Fondation pour l'école, ce sont des catholiques qui militent pour la liberté de l'enseignement en France, qui militent pour qu'il y ait vraiment une éducation libre, que chaque parent, chaque groupement philosophique ou religieux ait la liberté de donner à leurs enfants une éducation selon leurs convictions. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est dans la législation de la Constitution européenne, l'article 9, qui dit ceci, qui garantit la liberté pour tous les parents d'avoir une éducation pour leurs enfants selon leurs convictions philosophiques ou religieuses. Donc au niveau de l'Europe, cette liberté est garantie. La France a mis du temps à signer ça, parce que c'était ce point-là. C'était un peu le point d'achoppement. Mais voilà, donc nous avons un pays où il y a cette liberté, au niveau juridique, au niveau légal. Nous sommes dans un continent, l'Europe, qui garantit cette liberté. Le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons de cette liberté ? Qu'est-ce que nous en faisons ? Et voilà, donc ça, il faut pour ça une vision. Nous sommes dans un temps, aujourd'hui, qui est un temps de crise, crise du sens, et du qui en vue de quoi. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une crise d'espérance. C'est très flagrant dans le milieu de l'éducation et de l'enseignement. Nous travaillons, nous, établissement Daniel, avec plusieurs professeurs chrétiens du public. Donc, notre vision, ce n'est pas contre le public, pas du tout. Notre vision, c'est on apporte ce qu'on est, les richesses que nous croyons avoir, pour nos enfants et pour tous les enfants. Voilà, c'est ça notre cœur. Et puis, merci Seigneur pour les chrétiens qui s'investissent dans les structures publiques. Mais donc, ces gens-là nous disent la température qui existe actuellement. Et il y a une sorte de vague de gens qui commencent à baisser les bras de partout. Et cette crise de l'espérance, elle est vraiment importante à prendre en compte parce qu'on ne peut pas éduquer si nous n'espérons pas. Et s'il n'y a plus d'espérance pour le pays, plus d'espérance pour le monde, pour le futur, c'est très difficile d'éduquer. Donc c'est une crise de sens, éduquer en vue de quoi ? Une crise de sens, une crise d'identité. Alors là, on l'a vu avec les lois en France, les nouvelles lois sur le mariage, etc. Le problème qui se pose, c'est la filiation. Comment, avec des couples, par exemple, homosexuels ou autres, ça va devenir quoi, la filiation ? Et donc, ce problème de la filiation, ce n'est pas qu'un problème légal, c'est un problème de société. C'est-à-dire que je crois vraiment que dans cette crise d'identité, et qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas d'hier même, c'est-à-dire d'où je viens, où est-ce que je vais, qu'est-ce qu'un homme, hein, c'est ça. Eh bien, cette crise d'identité, elle rejaillit dans le monde de l'éducation. Et après 30 ans, moi, je crois qu'un des cœurs de l'école chrétienne, c'est de lever des fils et des filles. C'est-à-dire des enfants qui se sachent fils et filles de Dieu. Au-delà de tout savoir, au-delà de toute transmission, cet ADN, je sais qui je suis, est absolument important. Et ça, quand j'ai entendu les témoignages des jeunes Français djihadistes partis au djihad en Syrie, quand vous écoutez bien ces témoignages, pas de père, recherche d'identité, vouloir faire quelque chose de leur vie, eh bien, je crois que l'éducation nationale, avec toute sa bonne volonté, ne peut pas donner un ADN de fils et de filles, parce qu'on ne peut pas donner un ADN quand on ne l'a pas reçu. Et donc, une des forces de l'école chrétienne, c'est donner l'ADN de fils et filles de Dieu. Et ça, ça donne un fondement pour la vie, pour affronter même les intempéries de la vie, qui est bien plus fort que n'importe quoi. Donc c'est pour ça que ce climat de famille dans ces écoles que nous expérimentons est un climat absolument extraordinaire. Ce climat de famille, ce climat de père et de mère qui se déverse sur les enfants jour après jour, ça vous lève une génération forte comme jamais il y en a eu. Et ça, c'est la force de l'école. Donc, crise de représentation, c'est-à-dire... Alors, juste crise de transmission. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui veut transmettre des savoirs et transmettre des informations. On n'a jamais été aussi pointu dans la transmission des informations, des savoirs. Alors là, on a le matériel, on a les techniques, on a les gens formés, formidables. Mais le problème, c'est que la transmission au niveau biblique, c'est beaucoup plus que transmettre des savoirs et transmettre des informations. Et je crois que l'école chrétienne, elle relève une vision biblique de la transmission, qui est une transmission non seulement de savoir, mais une transmission d'être, une transmission d'ADN, une transmission de vision du monde, une transmission de compréhension de qui est l'homme, de qu'est-ce que le monde, etc. Donc la transmission biblique, c'est beaucoup plus qu'une transmission d'information. Et l'école aujourd'hui, elle veut être neutre. Alors elle ne l'est pas, mais elle veut être neutre. Donc on ne va pas transmettre ce qui pourrait être du domaine de la foi, par exemple, etc. Donc on va bien essayer de compartimenter les choses. Mais du coup, ça réduit en peau de chagrin cette grande vision que Dieu a d'une véritable transmission. Donc en fait, nous sommes dans une culture qui a réduit la transmission. Quand on prend l'histoire de France, l'histoire de l'éducation en France, nous avons depuis 2 siècles une réduction de la vision de la transmission. Et je crois qu'on va parler aujourd'hui de cette transmission. La crise des représentations, comment est-ce qu'on voit le monde ? Comment est-ce qu'on voit la famille ? Comment est-ce qu'on voit le milieu du travail ? Et je crois que si nous avons, en tant qu'Église, et que parents chrétiens, une vision du royaume de Dieu. Écoutez bien, si on a vraiment une vision du royaume, il va falloir communiquer cette vision du royaume dès le tout jeune âge. C'est quoi une vision du royaume? C'est voir les domaines du monde, de la politique, de l'économie, des sciences, de l'histoire, autrement que ce qui est véhiculé aujourd'hui. Comment voulez-vous, en tant qu'Église, percuter avec une vision du royaume si nous n'avons pas enseigné une génération dans une vision qu'a le roi pour le monde? Quand vous prenez les programmes d'économie de première, terminale, c'est une vision de l'économie qui passe. Ça n'a rien à voir avec la vision du royaume de Dieu au niveau de l'économie. Donc, ça, c'est vrai pour tous les domaines. Donc, il y a une sorte d'incohérence actuellement entre une vision qu'on peut avoir du corps de Christ, du royaume de Dieu, et la formation que l'on fait pour que la génération aille dans cette vision du royaume. Et je crois que l'école chrétienne, dont le but, c'est d'être au service de la société, mais au service dans le sens avec cette vision du royaume, non pas pour l'implanter, le dominer, mais pour servir avec une autre vision, avec d'autres valeurs, avec d'autres buts, avec un autre ADN. Et ça, cette crise des représentations, elle est très forte aujourd'hui, c'est-à-dire que chacun a sa définition de qu'est-ce que l'homme, de qu'est-ce que le monde. Chacun a sa petite définition de la vérité. Et ça, c'est un problème, c'est une crise aujourd'hui. Il y a entrechoc de vision du monde. Il y a la vision du monde musulmane, il y a la vision du monde rationaliste, il y a la vision du monde athée, il y a la vision du monde laïcarde. Il y a plein de sortes de visions du monde, ça s'entrechoque, et Dieu qui nous dit, et Jésus qui nous dit la chose la plus importante qu'il a dite avant qu'il monte au ciel, rappelez-vous, on le connaît, hein, c'est « Faites des nations des disciples, enseignez-les, enseignez-les. » Et donc l'école chrétienne, elle se greffe là-dessus. Donc une crise philosophique, et bon, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais nous avons un module à l'ISP qui est une semaine d'introduction à la philosophie d'éducation que je donne, mais ce que je remarque, c'est que il y a un point que j'aimerais simplement soulever, c'est ce dualisme que nous vivons. C'est-à-dire, on croit que le domaine de la foi, c'est un domaine, vous voyez, et le domaine de la science en est un autre. Bien sûr que c'est deux domaines à distinguer, bien sûr, on ne veut pas mélanger tout, mais d'un point de vue biblique, ce n'est pas séparé. L'un éclaire l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. Et si vous enseignez en dehors de la foi, alors il y a un problème. Et on va le voir un peu aujourd'hui, rapidement. Mais nous sommes dans une crise philosophique. La philosophie qui est venue depuis deux siècles, c'est une philosophie des Lumières qui nous dit, par exemple, que c'est l'État qui doit éduquer nos enfants. Cette idée-là, qui est tout à fait nouvelle, qui était révolutionnaire, qui d'ailleurs vient de la Révolution, qui vient de Jean-Jacques Rousseau, qui est le premier qui a dit « les parents sont inaptes à éduquer leurs enfants, il faut que ce soit la nation qui le fasse ». Premier homme dans l'histoire qui dit cette idée-là. Elle a mis des siècles à faire son chemin, mais au 19e, c'était fait, c'était enterré, hop, la nation éduque. Et donc, l'Église, si vous voulez, qui avait toujours ce manteau-là, elle a adopté cette philosophie, qui vient des philosophes. Hein. Et elle s'est dit, ben oui, au fond, c'est pas nous parents, c'est pas l'Église qui doit, c'est l'État qui doit s'occuper de nos enfants. Donc cette idée-là qui n'a rien de biblique, et ça, c'est une idée parmi tant d'autres. Les philosophies, elles touchent tous les domaines, et quand c'est des philosophies du monde, l'apôtre Paul qui nous dit, hein, ne soyez pas la proie des philosophies de ce monde. Et en tant que chrétien, sans le savoir, eh bien souvent, on peut être la proie des philosophies de ce monde. Et moi, je me rappelle, jeune étudiant, à la fin de mes études de philosophie, je me suis converti, et je dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai perdu mon temps à enseigner la enseigner dans la philosophie pendant des années? Et puis des années plus tard, vraiment, la parole de Dieu, le Seigneur qui m'interpelle, mais qui me dit, parce que je veux que tu démasques les philosophies de ce monde. Et maintenant, je les sens, je les renifle, je les hume. Et du coup, je peux les dénoncer. Et je dis, ben merci Seigneur, pour les voies par lesquelles tu m'as fait passer. Chacun d'entre nous, on se demande parfois pourquoi on est passé par là. Ben oui, on comprend après. Donc les philosophies, elles teintent nos pédagogies, elles teintent nos façons de voir les enfants, elles teintent nos méthodes, elles teintent tout. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les philosophies? Il y a des religions, c'est-à-dire où on est pour Dieu, où on a mis Dieu de côté, et alors ça va teindre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, toutes nos conceptions. Qu'est-ce que veut faire le Seigneur ? Il veut dire, voilà, je suis le Seigneur. C'est simple quand même comme idée, hein, c'est basique. Je suis le Seigneur. Et je suis le Seigneur de tout. Ah, alors ça c'est le problème, parce que bon, on croyait qu'il était Seigneur de mon cœur, mais il veut ta tête aussi. Alors là, ça pose un problème. Au Seigneur, tu lui donnes le doigt, il veut tout. Alors, on a un Seigneur qui est un Dieu jaloux. Alors, tout domaine où il n'est pas le Seigneur, il est jaloux. Alors, l'école chrétienne, c'est un fruit de cette jalousie de Dieu qui dit « Je veux tout, tout est de moi, tout est par moi, tout est pour moi. » Voilà, c'est simple. Alors, ce n'est pas dans une attitude de conquérant et de croisé, mais une attitude de service et d'amour pour Dieu et donc pour l'humanité et donc pour les enfants. On veut leur donner le meilleur. Une crise épistémologique, c'est un mot barbare, mais ça veut dire les conditions de la connaissance. Comment je peux connaître quelque chose ? Comment je peux savoir que c'est vrai ? Alors là, il y a une crise terrible aujourd'hui, parce qu'on va vous dire, il n'y a plus de vérité. Chacun sa vérité, je ne peux rien connaître vraiment. Vous voyez, on a vraiment une crise aujourd'hui qui est très, très, très prononcée, et il nous faut revenir sur des fondements. Et cette crise, vous savez comment elle s'appelle aujourd'hui ? Tout ça, les plus grands de notre pays, ils l'ont vu. Ils ont dit, il y a une crise dans les fondements même de notre société et de l'éducation. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on parle de refonder, la politique, c'est refonder l'éducation. C'est au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au début c'était réorienter l'éducation, et maintenant c'est refonder. Pourquoi ? Parce que tout le monde se rend compte qu'il n'y a plus de fondements, et qu'il faut changer les fondements. Et alors, nous chrétiens, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans un monde qui dit, on cherche des fondements. Et si on est vraiment lumière du monde, rappelons-nous ce que le Christ nous a dit. Et l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 3, il y a un seul fondement, c'est Jésus-Christ. Et dans un monde où les fondements sont ébranlés, pourquoi est-ce qu'ils sont ébranlés ? Ce n'est pas pour qu'on souffre, ce n'est pas pour qu'on soit malheureux, mais c'est parce que Dieu ébranle ce qui n'est pas fondé afin de fonder de l'inébranlable. Et donc, il ébranle tout. Et le monde de l'éducation est ébranlé, comme tous les autres mondes, pour que le peuple de Dieu se lève, se bouge, et dise, nous, on va vous démontrer un autre fondement. Donc, voyez, pourquoi l'école chrétienne, pourquoi, les raisons et les buts, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, en quatre séquences, hein. Voilà. Alors, j'ai essayé de ce qu'on peut entendre sur l'école. Vous avez sûrement entendu, ceux qui m'ont déjà entendu, là, la piqûre de rappel, prenez cette journée en vous disant, voilà, si quelqu'un me demande, dans mon église, dans mon entourage, dans ma famille, mais pourquoi ce projet d'école ? Qu'est-ce que tu fais avec ça ? Il faut pouvoir argumenter. Il faut pouvoir dire le pourquoi tu te bats. Et donc, cet argumentaire, je vous propose aujourd'hui prendre cette journée pour ceux d'entre vous qui auraient déjà entendu ces fondements, de se dire, ben voilà, je vais m'approprier pour pouvoir à mon tour aussi le redonner. Ce qu'on peut entendre, ceux qui sont partisans de l'école, tous ces arguments sont des arguments qui sont fallacieux. Hein, donc c'est pour ça, ceux qui sont pour. Parfois, il y en a qui disent, l'école chrétienne est une réponse pertinente aux déviations que nous voyons dans le public. Vous voyez, le gender, la théorie du genre, la violence dans l'école, l'incrédulité des enseignants. Donc, il faut absolument faire quelque chose. On comprend, hein, encore une fois. Mais ça, ce n'est pas une raison pour démarrer une école. Ce n'est pas une raison suffisante, en tout cas. C'est une raison de réaction, vous voyez. Et ça ne suffit pas pour bâtir. Ensuite, l'école chrétienne est pour s'opposer au monde. Hein. Le monde est mauvais. Donc, l'école publique, c'est Satan. Il y en a qui pensent ça, hein. Alors, on va s'opposer, on va montrer, nous, le témoignage du Christ dans ce monde perdu. Bon, je comprends, mais ça, ce n'est pas une raison. Parce que c'est faux, en plus. Ce n'est pas une raison pour faire des écoles. Alors, ceux qui sont contre, alors on connaît les arguments. Alors, l'école chrétienne est un cocon qui ne prépare pas les enfants à affronter la vie. Alors ça, c'est l'argument qu'on entend depuis 30 ans. On le connaît par cœur et je me régale quand je l'entends. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'il va prendre là ? Je frotte mes mains, je me dis, mon ami, attends là, reste un petit moment, on va discuter. Alors ça, c'est l'argument, voilà. Et ensuite, il faut être sel et lumière. Nos enfants sont des témoignages dans le monde, et non pas nous replier sur nous-mêmes. Alors, si vous voulez, il y a une part de vérité dans ces choses-là, hein, parce que ça peut être un danger. C'est comme une église. une église, tu pourrais dire, mais il ne faut pas d'église, parce qu'on doit être témoin dans le monde. Donc, pourquoi tu te réunis le dimanche? Il ne faut pas se replier sur soi. C'est la même idée. Non. Pourquoi tu fais une école? Il ne faut pas se replier sur soi, il faut être témoin dans le monde. Donc, c'est cette idée que, un peu tordue, mais il y a un dérapage possible. Et le dérapage possible pour une église, c'est de se replier sur elle-même. Et l'école, c'est pareil. Donc, on a la même problématique que les problématiques d'église. Et d'autres qui disent l'école publique est neutre, la science est neutre, l'histoire, c'est l'histoire, la géo, c'est la géo. On ne va pas commencer à tergiverser. On n'a pas besoin de tout réinventer. Et cette idée de la neutralité, on va voir, elle ne tient pas. Donc ça, c'est des arguments, vous voyez. Le PowerPoint que je donne là, je vous le laisse. Hein. Ne soyez pas stressés à écrire, c'est pour vous. Donc, voilà. Donc l'école publique est neutre, ça ne marche pas. Donc voyez, ces arguments-là, qu'ils soient pour ou contre, ne sont pas des arguments valables, hein, suffisamment fondés pour démarrer un projet d'école. Donc, une citation. Vous savez qu'en 1905, il y a eu la séparation Église et État. Une bonne séparation, une bonne séparation. Et des évangéliques, le premier théologien a parlé de cette nécessité qu'il fallait séparer l'État de l'Église, c'était Alexandre Vinet. Mais Alexandre Vinet, il a dit ceci, il ne fallait pas séparer l'école de l'Église. Et il a dit, l'Église renferme l'école, il ne peut y avoir, d'après la nature même, la forme sous laquelle le christianisme nous a été donné, d'église sans école. Partout où le vieux christianisme s'établira, vous verrez des écoles. Les écoles sont les premiers établissements de tous les missionnaires, etc. Et donc c'était un théologien, un enseignant aussi, de lettres. Et il a toujours milité pour que l'Église garde son rôle d'éducatrice. Pas de tous, mais au moins de ceux qui veulent proposer une éducation différente. Donc ce que nous, on a fait en France, c'est que quand on a séparé l'État de l'Église, l'Église a dit « je ne m'occupe plus d'éducation », en tout cas les protestants. Et il y a un homme, monsieur de Pressensé, qui a dit ceci, nous sommes au 19e, il a écrit ça quand les lois sur la laïcité étaient en train de passer. « L'école sans la Bible, c'est pour nous l'école décapitée, ou pour mieux dire matérialisée, dépourvue de son moyen le plus efficace d'influence et d'éducation. » Il faut que les églises évangéliques aient leurs propres écoles, qu'elles ne reculent pour cela devant aucun sacrifice. La vision d'école chrétienne a toujours existé. Et elle a été un peu perdue de vue depuis le 19e. Et on va voir un peu pourquoi. Donc voilà, ça c'était... J'aimerais parler de ces fondements aujourd'hui. Alors le 3 là, j'aurais dû l'enlever. Et qu'est-ce qui fonde la motivation ? Qu'est-ce qui fait une réelle motivation pour implanter une école? Ça me paraît déterminant, revisiter nos racines. Et c'est une question de fondement. Le psaume 11, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ça c'est le problème. Nous sommes dans une société où les fondements sont ébranlés, parfois renversés. Et le juste, il a beau être juste, si les fondements sont renversés, la Bible elle-même dit qu'est-ce qu'il peut faire. Et je mets ça en parallèle avec les textes d'Ésaïe que vous connaissez, par exemple Ésaïe 58, Ésaïe 61, etc., qui parlent des fondements. Hein. Par exemple ici, Dieu qui nous dit, voilà, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Dieu est un Dieu qui est intéressé par la fondation, par les fondements. Vous avez ce texte, Ésaïe 54, « Malheureuse, battue par la tempête, que nul ne consomme. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, je donnerai des fondements de saphir. » Regardez, les fondements. Hein. « Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. » Intéressant, le rapport entre les fondations et la notion d'avoir des fils. Est-ce que vous vous rappelez ce texte du psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et tout de suite après, il est dit, tes fils seront comme des flèches dans le carquois, etc. Ce psaume, il nous parle comme de deux thèmes. D'un côté, Dieu qui veut bâtir, et il n'y a que lui qui bâtit, bien. Et de l'autre côté, ça nous parle des fils, et on se dit, mais attends, il n'aurait pas pu faire deux psaumes, quoi. Pourquoi ces deux thématiques qui semblent si différentes? Et en réfléchissant bien, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a qu'une thématique, en fait. Quand Dieu dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain, voici les fils sont un héritage. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne bâtit qu'avec des fils et des filles. Et le terme hébreu pour bâtir, ben, c'est le même mot que fils. Impressionnant. Donc, nous avons ici, Dieu veut bâtir son royaume, mais il ne bâtit sa maison qu'avec des fils et des filles. Et donc, les fondations même, l'idée ici de fondation, c'est les fondations dans l'identité aussi. Et donc, il nous faut revisiter ces fondations. Et vous avez le texte que j'ai cité, Ésaïe 61, nous, ceux qui sont, par exemple, de tendance charismatique, souvent on aime bien ce texte, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs, guérir les yeux des aveugles, libérer les opprimés, tout ça. » Mais il est dit ensuite, « Vous rebâtirez sur d'anciens fondements. » L'Esprit du Seigneur, être charismatique, c'est l'onction que l'Esprit nous donne pour mettre des fondements là où il n'y en a plus. C'est l'onction que Dieu nous donne. Et une Église qui se veut charismatique, qui se veut dans l'Esprit, est appelée à remettre des fondations là où il n'y en a pas. Ça, c'est la promesse d'Ésaïe 61. Donc vraiment, nous sommes dans ce courant-là, et ce courant-là, c'est 1 Corinthiens 3. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui était posé, savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir le bon fondement, qui est Jésus-Christ, mais il s'agit de bâtir avec lui. C'est quand même étonnant que dans le monde de l'éducation, on a dit depuis la Révolution, la plupart du temps, bon, l'éducation, le Christ, c'est de l'affaire privée. C'est l'affaire de foi personnelle. Mais surtout, il ne faut pas mélanger les gens. Donc l'éducation, l'école doit être une école laïque dans le sens « Dieu n'a rien à y faire ». Je peux comprendre ce point de vue. Il y a eu beaucoup de souffrance au nom de Dieu. Et bien sûr qu'on ne veut pas que ça revienne, ces histoires. Et je ne vois pas d'autre alternative aujourd'hui, dans un monde où il y a des tas de croyances, qu'une laïcité respectueuse et une école laïque qui a sa place. Mais il y a la place aussi pour une école bâtie sur un autre fondement, qui puisse accueillir tous les enfants et qui soit un témoignage d'une façon de bâtir autrement. Et les témoignages que nous avons des écoles chrétiennes dans beaucoup de nations montrent que ces écoles sont vraiment au service de la société et bénissent la société. Moi, il y a un témoignage qui m'a bouleversé il y a quelques années, c'est le témoignage de ce réseau d'écoles en Afrique du Sud avec lequel on est en contact. C'est une église qui avait à cœur une école. Ils ont démarré assez petit sur un grand terrain. Il n'y avait pas d'argent, bien sûr, pour l'école. Ils se sont dit, mais Seigneur, comment on va faire tout ça? Et puis, ils avaient un de leurs enfants, dans une réunion de prière, un enfant, il a eu cette parole, il a dit, je vois que le sous-sol, il y a un trésor dedans, dans le terrain qu'on a acheté pour les... Il y a un trésor. Alors, ils se sont dit, tiens, est-ce que c'est symbolique? Est-ce que c'est vrai? Bon, ils ont cherché. Et ils ont trouvé qu'il y avait de l'eau très, très pure. Ils ont commercialisé l'eau, c'est les premiers importateurs pour toute l'Afrique du Sud maintenant. Et tout l'argent qu'ils ont par cette entreprise, ça paye l'école, l'université, la formation des enseignants, etc. La vision d'un enfant, dans le sous-sol, il y a un trésor. Et ce trésor, c'était de l'eau. Et donc cette école, ça marche tellement bien que l'éducation nationale d'Afrique du Sud paye les enseignants du public pour faire des stages dans ces écoles pour voir comment ils font. Parce que les résultats sont tellement incroyables qu'il y a un truc. Mais leur truc, c'est pas une pédagogie particulière. Il y a une atmosphère de prière. Il y a un honneur pour Dieu. Et les gens qui sont dedans, il y a un changement qui se fait. Et ça se fait comme ça. Je ne dirais pas que c'est naturel. C'est du surnaturel naturel, quoi. Et je pourrais vous donner d'autres exemples comme ça. Et il y a vraiment quelque chose que Dieu veut faire. Il veut qu'on rebâtisse sur d'autres fondements, qu'on réinvite ce Seigneur qu'on a foutu à la porte de l'école quand même tellement longtemps. Et voilà, c'est le réinviter parce qu'on comprend ces textes-là et on veut qu'ils soient de la partie. J'aime bien cette citation. Alors, les citations que je donne sont, peut-être plusieurs le connaissent, mais quand j'ai lu depuis des années, je me suis dit, on va faire un recueil de toutes ces citations qui sont des pépites pour les éducateurs, pour les parents. Et c'est répertorié dans un livre excellent, il faut le dire, qui s'appelle « Richesses enfouies », qui est au fond, qui est pour vous. Et vous avez des citations des pères de l'Église, des scientifiques, des hommes de lettres, des hommes d'État qui parlent de l'école chrétienne, qui parlent du Christ dans l'école, qui parlent du pourquoi il faut la foi dans l'école. Et ça, ça nourrit notre vision d'école chrétienne. Eh bien, cet inventeur de le père de l'électrodynamique en français, voilà ce qu'il dit. « Étudie les choses de ce monde, c'est le devoir de ton État, mais ne le regarde que d'un œil. Que ton autre œil soit constamment fixé sur la lumière éternelle. Écoute les savants, mais ne les écoute que d'une oreille. Que l'autre soit toujours prête à recevoir les doux accents de la voix de ton ami céleste. N'écris que d'une main et de l'autre, tiens-toi aux vêtements de Dieu, comme un enfant se tient aux vêtements de son père. Que mon âme, à partir d'aujourd'hui, reste ainsi unie à Dieu et à Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit ici un homme de science qui ne sépare pas sa science de l'adoration et de l'honneur qui est dû à Dieu. Et ça, c'est une citation intéressante parce qu'elle montre qu'il n'y a pas de frontière étanche entre la science et l'adoration. Et au fond, qu'est-ce que c'est la science ? Que tous nos enfants sont au contact de la science, que ce soit la science historique, science géologique, qu'est-ce que c'est la science ? Sinon la science de ce que Dieu a fait. Parce que tous les domaines que nos enfants apprennent, c'est des domaines que Dieu a créés, a fait. Et donc, quand on commence à refaire le lien entre ce Dieu créateur et ce domaine de science qu'on étudie, on relève l'adoration et on relève l'honneur. Et quand dans Malachie, il est dit « Vous me frustrez de l'honneur qui m'est dû », c'est un contexte par rapport aux dîmes, aux offrandes que vous n'amenez pas. Mais la dynamique de l'honneur, et on parle beaucoup aujourd'hui de la culture de l'honneur, hein, c'est formidable, mais la culture de l'honneur, c'est reconnaître Dieu comme créateur et comme seigneur de l'histoire, comme celui qui a créé les lois physiques, comme celui qui a créé l'homme. Ça, c'est lui rendre l'honneur. Et tant qu'on a un système d'éducation qui ne rend pas honneur, il ne peut pas y avoir une bénédiction. Et ce qu'on honore, nous dit la parole de Dieu, ce qu'on honore, on s'approche, on l'attire à nous. Si on honore Dieu dans l'école, à nouveau, on va attirer sa présence. Ça, c'est le cœur de l'école. Donc, accroche-toi aux vêtements de Dieu comme un enfant se tient aux vêtements de ton père. Ici, il n'y a pas d'indépendance. Voyez, c'est pas un homme de science qui s'est dit « ma science, c'est ma science, ma foi, c'est ma foi ». Non, c'est un homme qui vit une réconciliation entre sa science et sa foi. Et ça, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on veut vivre. Et vous avez Abraham Kuyper, alors j'aime beaucoup cet homme, il m'inspire beaucoup, homme d'État, un théologien, un pasteur en Hollande. D'ailleurs, quand il commence, après ses études de théologie, il arrive jeune pasteur à l'église, il prêche son premier sermon, il y a une vieille dame de l'église qui lui dit « Toi, t'es pas né de nouveau, toi ». Alors il se prend « t'es pas chrétien, en fait ». Alors il a pris la claque, là, mais il s'est remis en question. Il a fait un cheminement, il a vécu vraiment une conversion avec Dieu. Et ensuite, Dieu lui a mis le fardeau de son pays, toute la Hollande. Et il s'est dit, mais Seigneur, comment je peux être un témoin pour ma société aujourd'hui ? Et Dieu l'a appelé au niveau politique. Et donc, en tant que pasteur, il a créé un parti politique chrétien. Et ils ont gagné les élections en 1905, donc ça date. Il était Premier ministre. Et cet homme, il a dit, il n'y a aucun domaine de la culture dont le Christ ne puisse dire, c'est à moi. Et le premier acte politique, c'est la création d'université libre, donc chrétienne d'Amsterdam, au début du siècle. Et toutes les matières scolaires, philosophie, droit, lettres, art, étaient faits avec des chrétiens qui aimaient le Seigneur et qui ont transmis en même temps que leur savoir une foi dans le Christ. Ça a levé une génération très forte qui a influencé surtout le monde anglophone. Mais on a ici un exemple. Mais il n'y aurait pas eu cette compréhension de la culture, ben, il ne se serait pas occupé ni de politique ni d'université. Et cette vision du royaume, c'est ce qui a déclenché cette vision d'être au service de son pays, avec les dons que Dieu lui avait donnés. Et là, j'aimerais vous dire tout de suite, je ne veux pas vous affoler quand même, mais quand même, j'aimerais vous dire que dans une graine d'école, dans une petite graine d'un projet d'école, il y a plus qu'une école. Il y a plus qu'une école. Le royaume de Dieu, c'est une graine et la croissance n'a pas de fin. Ça ne s'arrête pas. Ou ça se multiplie, ou ça grandit. Mais moi, il me semble juste de croire que dans la graine d'une école, dans la semence qui est dans votre cœur à Montauban, il y a plus qu'une école. Parce qu'une école est appelée à devenir un collège. Un collège est appelé à devenir un lycée. Un lycée est appelé à devenir, pourquoi pas, percer dans le monde universitaire. C'est-à-dire aujourd'hui, ça nous semble fou. Mais moi, je crois que ça va venir. Je crois que ça va venir. Dieu a parlé sur le pays. Et vous êtes là, jeunes parents, avec ce projet d'école. Mais j'aimerais vous dire, c'est plus qu'un projet d'école. C'est un projet du royaume de Dieu. C'est un projet d'une génération qui va toucher au-delà. Parce que formé dans la mentalité du royaume, il y a des répercussions formidables par rapport au royaume. Francis Schaeffer qui dit « Nous devons remarquer que le salut ne concerne pas seulement l'individu, mais toute la culture. Hein ? Christ est le Seigneur de tout. Il est le maître de tous les aspects de la vie. Inutile d'affirmer que Jésus, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le Seigneur de toutes choses, ce n'est pas aussi le Seigneur de ma vie intellectuelle et de sa cohérence. Nous avons un grand Seigneur. C'est pour ça qu'il veut des grandes écoles. Grandes, pas en sens du nombre, mais grandes, parce que le Christ est dedans. En fait, quand votre école démarrera, même avec 3-4 élèves, je racontais hier des témoignages des démarrages d'école. À Genève, une jeune enseignante qui capte la vision, elle se dit, elle a de Dieu de démarrer une école, mais elle se dit, mais Seigneur, il n'y a personne qui est intéressé. Alors bon, comment faire une école? Il y avait juste ton fils intéressé. Eh bien, elle a loué une salle de classe juste pour son fils pendant un an. Et les gens disent, mais c'est quoi cette école là? C'est quoi? Mais le fait qu'il y avait la salle de classe et quand même l'institut à plein temps pour un, les gens ont commencé à... Et ça a démarré l'école Timothée à Genève, qui est maintenant une école primaire qui marche bien et qui a plusieurs... Je vois, ils en sont à 60 ou quelque chose comme ça d'élèves. Vous voyez, ce genre de vision, quand même, il faut le faire, quoi. Hein, c'est beau. Alors, chacun, c'est différent, mais il y a, dès qu'il y a quelque chose de Dieu, qu'on comprend que Dieu veut toucher la culture, eh bien, que Christ est au centre, il se passe des choses étonnantes. Colossiens 2, Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Waouh ! Pourquoi une école chrétienne ? Ben, rien que ça. Parce que toute connaissance, sans Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas complet. Par exemple, tu vas me dire, mais une date historique, par exemple, je n'ai pas besoin du Christ pour connaître l'histoire. Tu vas connaître des faits. Mais l'histoire, selon Dieu, avec la perspective que lui, il a, tu ne peux pas la voir. Ce n'est pas que des faits. Ce n'est pas que des événements. Dieu est un Dieu qui est le maître de l'histoire. Dieu est un Dieu qui façonne l'histoire, qui met les gouvernements, qui les descend. Dieu est un Dieu qui est un Dieu qui a une fin de l'histoire, etc., qui maîtrise. Et cette vision-là, mes amis, elle est bien plus riche qu'une succession de dates, d'événements. Qu'est-ce qu'on donne aux enfants? On donne un sens à l'histoire. Et quand, on ne prétend pas tout connaître, attention, hein, on a des tas de questions encore, mais quand même, quand en sixième il démarre, en collège, avec les, vous savez, les empires, là, les empires babyloniens, les Roms, la Rome, Grèce, l'Égypte, tout ça, on démarre avec la prophétie de Daniel, qui, avant que tout ça arrive, voit ses royaumes et qui tombe, parce que le Christ, à un moment, va être celui qui va être cette montagne qui va surpasser toutes les autres. Donc les enfants, ils disent, ah ben oui, Dieu savait avant que tout ce qui est dans mon programme, là, il savait avant. Ben oui, il savait avant. Et donc les enfants sortent d'un même cours d'histoire, qui est dans les mêmes programmes que partout dans le pays, mais avec une image que Dieu est souverain. Et ça, mes amis, ça forge quelque chose de très fort. Christ au centre, Christ au centre. Christ, tous les trésors de la connaissance, de la sagesse sont en lui. Et si on veut connaître en dehors de lui, il y a quelque chose de fade, il y a quelque chose de mort. Et moi, c'est ce que j'appelle une culture de mort. Tu peux avoir toute la culture du monde. Tu enlèves le Christ, ça sent la mort. Tu peux avoir les meilleurs enseignants du monde, les mieux formés. Mais s'il n'y a pas le Christ au cœur, il y a un goût de mort. Et ce goût de mort, c'est une culture qui ne veut pas reconnaître le Christ comme trésor de toute la connaissance. Voilà, alors vous avez Bonaventure. Alors lui, c'était un... En France, comme par hasard, nous avons ce bel héritage d'avoir eu, sinon la première université, au moins dans les deux premières, il y avait Bologne et Paris au XIIe siècle. L'université est née par des chrétiens, des hommes de Dieu, qui se sont dit, il faut que des jeunes soient formés dans la parole de Dieu. Il faut former les princes de l'Europe dans les Écritures. Et ça, c'est l'origine de l'idée d'université, rassembler les différents collèges et tout ça de Paris, mettre la parole au centre et former une génération dans la parole de Dieu, université. Les professeurs d'université, les premiers, ça a été, par exemple, ce monsieur-là, Bonaventure, théologien, philosophe. Il y avait des juristes, il y avait des hommes de lettres, etc. Il y avait Thomas d'Aquin, il y avait ce genre. Et voilà cet homme-là, voilà ce qu'il dit. Rien ne peut rendre les choses parfaits objets de science si ce n'est la présence du Christ, Fils de Dieu et Maître. La présence de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous saisissez le... Aujourd'hui, on parle beaucoup de la présence de Dieu. Par exemple, notre Église est assez connectée avec... On est pas mal inspiré par Bethel, par ce qui se passe là-bas, par... on est intéressé. Il parle beaucoup de la présence, de l'honneur. Alors moi, je bifurque tout ça, je ne veux pas le détourner, tout ça, c'est juste. Mais dans le contexte aussi de l'école, mais ce contexte, la présence de Dieu dans la salle de classe, cet homme-là, depuis des siècles, la voix résonne encore sur une chaire d'université. Je ne peux rien enseigner sans la présence du Christ. Voyez. Alors, vous allez me dire, on a perdu du terrain. Ben, vous voyez qu'on en a perdu. Et un jour, l'Église s'est dit, moi, ce n'est pas mon affaire. Hein. Moi, l'école, ce n'est pas mon affaire. L'université, ce n'est pas mon affaire. Et qu'est-ce que ça donne après? Ça donne un pays comme on a. Et Dieu dit à son Église, hé, hey, oh, est-ce que ce n'est pas à toi que j'ai donné le mandat d'enseigner, d'influencer les nations, de faire non seulement de tes enfants, mais des nations des disciples? Comment tu veux faire des nations des disciples si tu as méprisé l'école et l'université? Reprends, reviens aux origines, regarde les antiques sentiers. Vois s'ils sont bons, et s'ils sont bons, suis-les. Et on termine avant la pause, je pense qu'il y a une pause maintenant. J'ai juste deux images. Christ, alors moi c'est un résumé, mais Christ au cœur de tout le domaine de la science. Regardez, en théologie, Jésus-Christ est la plénitude de la divinité. En philosophie, Christ est le verbe, le logos. Il est aussi le seul sage. Hein. Philo, c'est aimer la sagesse, philosophie. Donc la Bible dit qu'il y a un seul sage, c'est le Christ, c'est Dieu. Donc le vrai philosophe, disait saint Augustin, c'est celui qui aime Dieu. Donc, nous avons au cœur de la philosophie Christ. En éthique, Christ est la lumière. En éthique, on ne peut pas avoir une éthique biblique sans le Christ. En biologie, il est la vie. Bio, zoé. En psychologie, il est le sauveur. En sociologie, il est le fils. En droit, il est le législateur. En sciences politiques, roi des rois, seigneur des seigneurs. Il place, il enlève, il gouverne. Vous savez que Dieu gouverne. Enfin, c'est quand même une idée basique, quoi, mais il gouverne. Et ensuite, science économique, il est le propriétaire de tout. En histoire, il est l'alpha, l'oméga. C'est son histoire à lui. En éducation, la Bible dit, écoutez bien ce verset, Matthieu 23, 8. Parfois, on dit, mais parfois, pourtant je connais la Bible, mais parfois il y a des versets qu'on n'a pas pigés. Dieu dit, Jésus-Christ est le seul maître. Pourquoi une école chrétienne? Parce qu'on croit qu'il n'y a qu'un seul maître, Jésus-Christ. Alors, vous me direz, mais alors c'est quoi une école chrétienne? Eh bien, c'est des enfants de Dieu qui ont le Christ qui habite dans leur cœur, le grand maître qui est dans leur cœur. Et quand ils enseignent, c'est le maître du cœur qui enseigne les enfants. C'est ça. Et quand j'enseigne, on est obligé de se dire à chaque cours, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux dire? Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Et on ne veut pas répéter comme Jésus a fustigé les pharisiens. Il leur a dit, vous enseignez des préceptes, vous enlevez la clé de la science, qui est la crainte de Dieu, vous avez tout enlevé. Il a dit, vous répétez ce qu'on vous a dit, la tradition des hommes vous a dit. Et Jésus qui dit, mais moi je vous dis. Rappelez-vous, ce n'est pas ça des évangiles. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Eh bien, l'éducation chrétienne, c'est quoi? Tu as entendu dire en histoire ceci, cela, mais moi je dis. Tu as entendu en biologie ceci, cela, mais moi je dis. Tu as entendu que la famille, c'était ceci, cela, mais moi je dis. Tu as entendu qu'un homme, c'était telle définition, mais moi je dis. Une école chrétienne, c'est laisser le maître enseigner ce que lui veut dire à nos enfants. Donc ça, ça me paraît déterminant. On va faire une première pause ici. Et voyez, cette première partie, c'était essayer de montrer le fondement du Christ. En quoi c'est un fondement pour tout le domaine de la science et de la connaissance. Voilà, on aura un temps de questions-réponses en fin de journée. Si jamais en milieu de journée, il y en a, il n'y a pas de problème. On est à votre disposition. N'hésitez pas aussi. Emmanuela, hein, si tu as des choses, tu me dis, et puis tu peux, sans problème. D'accord ?